Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Samir.
Salut.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Bah écoute, hein, comme un dimanche, ça va bien, au repos. On recharge un peu les batteries pour la semaine qui va arriver, qui sera bien chaude. Donc, on est dimanche, tout va pour le mieux.
Ah bah écoute, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Et bah déjà, merci infiniment d'être là, hein, effectivement, un dimanche. Et je sais que là, tu m'as dit un peu ton programme d'entraînement en ce moment. Et quand tu me disais la charge d'entraînement que tu avais, je me suis dit, oula, en ce moment, il doit avoir beaucoup d'autres choses à faire que de faire un petit podcast. Mais on va essayer de faire les choses bien et de passer vraiment un bon moment. Je suis vraiment hyper heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que je pense que t'es vraiment un des sportifs que j'admire le plus par son mental, par sa positivité. Et en même temps, quand je parle un petit peu de toi autour et même dans le monde du sport, tout le monde me dit Samir, c'est un mec en or, c'est pas que ce qu'on voit, et derrière la personnalité qu'il y a derrière, c'est vraiment quelqu'un de hyper sincère. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Et je mets un petit peu de contexte pour les auditeurs. On en reparlera de toute façon un petit peu plus tard, mais on a été mis en relation par les étoiles du sport. D'ailleurs, je remercie Coralie qui a fait un super boulot, ouais, qui nous a mis en relation, parce que tu fais une grosse campagne en ce moment avec les Restos du Cœur et les étoiles du sport. On en reparlera un petit peu. Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse, et en plus je sais que t'as une petite histoire à nous raconter avec les Restos du Cœur. Mais du coup, je te laisse la parole, et comme je te disais, la question un petit peu pour d'échauffement, pour partir un petit peu dans l'enfance et dans les souvenirs, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Déjà, avant de répondre à ta question, je voulais vraiment te remercier, parce que ce que tu m'as dit me touche énormément, c'est vraiment très gentil. On va dire que je suis un sportif qui a de la chance, parce que au-delà d'avoir eu des résultats, on m'a bien entouré, c'est surtout ça. Donc, avant que les résultats parlent, il faut pas oublier aussi le facteur humain qui a eu à côté, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Donc c'est un travail d'équipe. Donc voilà, moi ça me fait énormément plaisir d'entendre des choses positives sur moi, mais voilà, de l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont été vraiment bienveillants envers moi et qui m'ont aidé aussi à rebondir, notamment avec ces blessures, les coups du sort, mais aussi à être performant lors de certaines compétitions. Alors, avant de commencer, ouais, je veux vraiment les remercier, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde, artistique ou autre à côté. Donc, ouais, un grand merci à ces gens-là. Et pour revenir sur ta question, mon premier souvenir au niveau du sport, alors en tant que moi sportif ou en ayant regardé d'autres compétitions, qu'est-ce que tu souhaites?
Ah bah je veux les deux. Là, vu que tu me dis un sportif, enfin un souvenir en tant que spectateur ou un souvenir en tant que sport, je serais curieux d'avoir les deux. Tiens.
Alors, un souvenir en tant que sportif, c'était une de mes premières compétitions. C'était à Champigny-sur-Marne. C'était une compétition où on va dire que j'essayais de me qualifier pour le championnat de France, tu vois. Et c'était le, ouais, championnat départemental. Et ça avait eu lieu dans ma salle, donc j'étais hyper stressé. Je me suis dit, il faut que je fasse une bonne compétition si je veux me qualifier pour le championnat de France et me qualifier pour le championnat régional, la zone et ensuite la finale nationale, tu vois.
Ouais. Et, c'était à Champigny, du coup.
C'était à Champigny-sur-Marne.
Ouais.
Et je me suis dit, mais en plus, il est hors de question, excuse-moi de parler cru, mais que je fasse de la merde, parce que il y a tout le monde qui va regarder. Et si je foire, ça va être le club de Champigny, en fait, qui va se faire passer pour les mauvais, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, c'était ma première pression que je me mettais en tant que compétiteur, alors que je devais avoir quoi, peut-être 10 ans, quoi, tu vois.
Ouais. Ouais. Okay.
Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai gagné. J'ai gagné ma première, ma première compétition. Donc,
t'as fait briller le club.
J'étais content de dire oui, je suis champion départemental.
Bah, c'est les premières petites victoires, ça marque à vie.
Ouais, là, j'étais super content. Bon, après, j'ai réussi quand même à me qualifier pour le championnat de France qui, ouais, avait eu à Auxerre.
Ouais.
Quand j'avais fini dans les choux, tu vois, mais c'était mon cas. Et en tant que spectateur, je pense que je vais pas être très original, mais si je te dis l'équipe de France 98, la Coupe du Monde,
ah, avec tu te souviens?
Les deux buts de Zidane, bien sûr. Bien sûr, mon père avait un resto sur Opéra et il avait diffusé le match dans son resto. Et du coup, j'avais été regarder le match avec lui. Là-bas, à l'époque, c'était un très bon souvenir. J'étais gamin.
Ok.
Ouais, très bien.
Et donc, juste à côté des champs, en plus. Peut-être que vous avez fait la fête après.
Oula, non, on prenait un très bon souvenir.
Ah ouais, mais je pense que, je sais pas pour toi, mais moi, cette finale 98, je pourrais te dire les gens qui étaient dans la pièce, la couleur des murs. Je pourrais presque te dire ce que j'ai mangé au dîner juste avant le match. Les émotions fortes comme ça, tu te souviens de plein de choses autour.
Ouais, c'était encore, moi, j'avais 10 ans, quoi. J'étais un gamin, quoi.
Ouais.
Mais, c'est sûr que ça marque. Franchement, ça marque. Et je me souviens très, très bien. Juste après avoir discuté avec le patron de mon père, que j'ai dû voir une ou deux fois dans ma vie, quoi, tu vois, à cette époque-là. Mmh. Et je me souviens avoir parlé avec lui. C'était un mec qui en imposait, en plus, tu vois. Je sais pas, ça m'a marqué. Pourquoi lui? Je sais pas.
Ouais. Mais génial, génial. Bon, en tout cas, merci pour ces petits souvenirs. Et comment est-ce que t'es tombé dans la gym? Tu vois, c'est, alors moi j'en ai fait vraiment gamin. C'est le tout premier sport que j'ai fait en club.
Ouais.
Et je regrette pas du tout parce que c'était, ça t'inculque vraiment des valeurs et même physiquement en termes d'éveil pour les enfants. Je trouve ça très, très, très chouette. Mais j'ai aussi le souvenir que c'était très, très, très dur.
C'est clair et net. Alors moi, je suis tombé dedans vraiment par hasard.
Ouais.
J'étais un enfant qui était très turbulent et je me bagarrais beaucoup à l'école, tu vois.
Ah ouais, même en... J'imagine pas du tout de ça de toi.
Je me bagarrais tout le temps. Et j'étais vraiment très turbulent. Et avec l'école, on faisait de la gym. Mais tu sais, on faisait pas les agrès, on montait sur le trampoline et on sautait. Et je pensais que la gym, moi, c'était ça. Et un jour, mon père m'emmène pour m'inscrire au judo. Et en fait, au gymnase là où je m'entraînais, il y avait le gymnase en bas et il y avait un petit escalier et il y avait le dojo en haut. Et je reconnais la salle et je me dis, mais attends, mais c'est là où je m'entraînais avant, avec la maîtresse et tout. Je dis à mon père, papa, en fait, c'est du trampoline que je veux faire, c'est pas du judo. C'est bon, la bagarre, j'en fais assez à l'école, tu vois. En gros, moi, je pensais que la gym, c'était sauter sur le trampoline. J'ai dit, je veux sauter sur le trampoline avec mes copains. Et oui. Donc, mon père m'a regardé bizarre, mais il m'a inscrit, quoi, tu vois. et donc, j'ai continué. Et en fait, il s'avère que la gym, c'était pas du tout ce à quoi je pensais, quoi, tu vois. Et oui. J'ai continué parce que voilà, je faisais du sport, j'étais content d'être hors de ma maison et en fait voilà, les entraîneurs ont décelé un potentiel physique en moi et donc ils m'ont changé de groupe, ils m'ont mis dans un groupe qui faisait un peu plus de compétition et puis comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai gagné ma première compétition et ça a été vraiment c'était un plaisir et du coup les coachs ont vraiment kiffé et voilà comment j'ai fini dans ce sport, quoi.
Ouais, ok. L'histoire est belle, hein. L'histoire est belle parce que si imagine ton papa t'avait dit non, t'aurais dit non, désolé Samir, tu feras pas de trampoline.
J'aurais fait un autre sport, mais tu vois ce qui est dingue, c'est que tu vois à côté de la gym j'ai toujours fait du sport de combat, donc même encore aujourd'hui tous les matins je suis à la salle de boxe.
Ouais.
Donc je fais boxe et jiu-jitsu brésilien et les après-midi je suis à la salle de gym, tu vois. Donc en fait depuis gamin j'ai gardé cette notion de bagarre, de fight, tu vois, de combat dans le sang, quoi. Tous les matins je suis avec Olivier Moriano, un boxeur pro qui boxait, lui faisait de la boxe thaïlandaise et donc tous les matins je suis soit dans le ring ou soit à la Zader Team de Valoris à faire du jiu-jitsu brésilien. Je ne serais pas venu comme ça.
Ok. Bah ouais, coucou à mes copains de Valoris d'ailleurs, vu que tu connais un peu le coin. Mais, écoute, je savais pas du tout ça de toi. Je savais pas du tout que ce petit côté un peu bagarreur ou un peu chamailleur. Tu penses que ça t'a calmé de faire effectivement des sports de combat encadrés?
J'en ai besoin. Ouais. Franchement, j'en ai besoin. Je suis quelqu'un de très respectueux, mais assez impulsif. Et c'est vrai que moi, je suis une personne qui aime vraiment le contrôle de moi-même. Voilà, je suis assez sanguin et j'aime pas m'emporter pour rien. Et du coup, c'est vrai que la boxe, ça me canalise vachement. Et j'y viens pareil. Donc, c'est pour ça que je suis autant attiré par les sports de combat.
Ouais. Et t'aurais voulu en faire une carrière des sports de combat ou c'est juste un passe-temps et
Alors, bah, hier aujourd'hui, non, parce qu'il y a la gym, mais après, je sais pas, si j'avais pas fait gym, peut-être que je me serais dirigé vers un autre sport et j'aurais voulu faire une carrière. Tu vois, ça, c'est compliqué de le dire. Mais par contre, une chose, c'est qu'après ma carrière de gym, ouais, j'aimerais bien faire, faire quelques combats en amateur, tu vois, juste pour mon propre plaisir, pas pour, pour rentrer en équipe de France ou quoi, tu vois, mais vraiment pour mon plaisir personnel.
Ok, ok, ouais, pour découvrir, quoi, tout simplement, et te tenter, tenter un nouveau défi. Et ouais. le jiu-jitsu brésilien, c'est bien le sport que font tous les combattants MMA.
Ouais, c'est et... ça, c'est en fait, c'est du combat au sol, donc ça commence debout, comme le judo.
Ouais.
Et ça arrive au sol. Et contrairement au judo, où par exemple, dès qu'on arrive au sol, généralement ça s'arrête, on a le droit à soit un étranglement, soit une clé de bras. Là, le combat continue et t'as le droit de faire beaucoup de clés de jambes, de clés de talons, clés de chevilles, clés de bras, clés de poignets. Ouais. Donc le combat continue au sol. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un pur kiff, quoi. Parce que tu commences debout et tu finis par une soumission au sol.
Ouais.
Et c'est un sport qui est très complexe, très très complexe. Et c'est énorme. Et c'est sûr que tous les mecs du MMA font du travail soit de JJB, soit de grappe, parce que le travail au sol est hyper important quand tu rentres dans la cage.
Ah ouais. Mais toi là, t'as tout parfait du combattant MMA, du coup, parce que si tu fais boxe anglaise plus jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment les deux sports phares qu'il faut maîtriser pour du MMA.
Je pense que pour être un combattant de MMA, il faut être bon partout dans tous les domaines, en lutte et au sol. Les mecs s'entraînent à fond. Moi, je tire mon chapeau aux combattants de MMA parce que c'est des sportifs mais de fou, quoi. C'est des guerriers. C'est des mecs qui sont intelligents et c'est des mecs qui, en fait, il faut qu'ils soient bons dans tous les domaines. Tu vois? Et je trouve ça très fort. Et généralement, les mecs sont assez humbles en plus. Et non, c'est vraiment une discipline que j'adore. Et les fighters sont, franchement, c'est des génies. Hein. Quand tu les vois combattre, tu te dis, mais oh là là, comment ils font? Ça a l'air tellement facile, mais, c'est 10 fois, 20 fois plus complexe que ce que toi tu ne le penses. C'est énorme. Ouais. En grand respect à eux, en tout cas.
Ouais, c'est clair. T'as raison, effectivement, de leur tirer un peu le chapeau, parce que c'est vrai que c'est des sports hyper, hyper exigeants, et tu me diras la gym aussi, mais d'ailleurs, je suis curieux, est-ce qu'il y a des choses que t'as appris dans les sports de combat, que ça soit sur l'aspect mental, que ça soit sur l'aspect préparation, ou même sur l'aspect physique? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les sports de combat et que tu as réussi à transposer à la gym ou qui t'ont inspiré pour ton sport et pour ta carrière professionnelle?
Franchement, non, parce que dans la gym, c'est un sport qui est assez difficile et tu sais, on a l'habitude de s'entraîner et de rien lâcher. Et donc c'est pareil, c'est des valeurs qui sont communes aux sports de combat. Et eux, c'est pareil, tu vois, ils s'entraînent et ils lâchent rien. Donc, c'est vraiment commun, d'ailleurs, j'ai envie de dire, à tous les sports, même surtout le sport de haut niveau.
Ouais.
Après, chaque sport a sa complexité, tu vois, et je trouve que du moment où tu fais du haut niveau, t'es en permanence dans l'apprentissage, tu vois.
Ouais.
Et il n'y a pas de sport qui va t'apprendre plus que d'autres. Voilà, moi, à la base, le sport, ça apprend l'humilité et le respect. Mais le sportif de haut niveau, enfin, on va justement apprendre sur soi à se dépasser, justement, à aller au-delà de ses capacités. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Ouais. Déjà, le sport en général, le sport, ça a des valeurs magnifiques. Donc, j'incite énormément de gens à faire du sport parce que au-delà des vertus que peut amener le sport, ça travaille énormément dans le ciboulot, quoi, tu vois.
Ouais. Ouais, c'est clair. Ça t'apprend des choses sur toi-même très fortes. Ouais. Ouais, c'est clair. Et toi, à quel moment ça a commencé à devenir vraiment une passion et à devenir sérieux, la gym? Il y a eu un moment, je sais pas, où t'as commencé en étant jeune, à te dire tiens, là, j'ai envie d'en faire ma carrière, j'aimerais bien avoir des titres. Il y a un moment de déclic ou c'est, ça vient naturellement?
À partir de la sixième, quand je suis rentré au collège, j'ai intégré le pôle France d'Antibes. Ouais. Je suis parti de la région parisienne et je suis resté de la sixième jusqu'à la terminale.
Ok.
Je suis resté au pôle France d'Antibes. Alors ensuite, je suis retourné sur l'INSEP. Mais à partir de la sixième, je me suis dit, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait, tu vois.
Ok.
Donc, je suis arrivé au pôle France d'Antibes et j'étais le plus mauvais, tu vois, à l'époque. Franchement, plus mauvais. Mais déjà, dès tout petit, j'avais envie de leur montrer que même si j'étais le plus nul, que je pouvais y arriver et devenir le meilleur, tu vois.
Ouais.
Alors, c'est vrai, je suis de loin. Je suis arrivé, j'étais dans le groupe où il y a eu... t'as vu sur le championnat de France que je te parlais?
Ouais.
Je me suis retrouvé d'une année à l'autre à être dans la même, dans le même groupe et la même équipe que le mec qui venait de faire champion de France et vice-champion de France. Alors que moi, j'avais fini 104e, quoi, tu vois.
Ok. Ah ouais, non. Okay.
Donc, je fais mon premier championnat de France au mois de juin. Et au mois de juillet, donc deux, trois mois après, je me retrouve dans un pôle France à m'entraîner avec le mec qui a mis une raclée à tout le monde. À tout le monde. Alors que toi, t'es là, t'as fini 104e, t'es inexistant et tu t'entraînes avec lui dans ta tête. Même moi, j'avais envie de lui dire, s'il te plaît, tu me signes un autographe limite, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que quand je me comparais à lui ou à eux, je me dis, mais en fait, t'es une merde. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais au fond de moi, je me suis dit, vas-y. T'inquiète pas, le retard, je vais le rattraper plus vite que ce que tu ne penses. J'avais déjà cet esprit de compétiteur, tu vois, sans le savoir et sans le vouloir. J'avais déjà cet esprit de compétiteur. Et tu vois, à force, les mecs, justement, ces deux mecs-là qui ont fait champion de France et vice-champion de France, j'ai réussi à les rattraper et ils ont arrêté leur carrière, je les ai battus et tu vois, ça veut rien dire du tout, quoi. Ça veut rien dire. Mais bon.
Tu peux toujours rattraper ton retard, ouais. Ça, c'est clair. Et toi, tu sais d'où ça vient un peu cet esprit de compétition et cet esprit de guerrier, tu vois. Moi, je sais un peu que, tu vois, ça vient un peu de mes parents qui me poussaient vachement, qui m'encourageaient vachement à être le meilleur, à toujours faire mieux et tout. Et ils m'ont beaucoup poussé avec ça. Et toi, tu sais un peu d'où ça vient, qui t'a transmis ça ou comment est-ce que c'est venu?
Mon père, c'est un guerrier, c'est un homme qui a charbonné toute sa vie, qui a toujours été bosseur. Et ça, je pense qu'il m'a laissé ça en héritage, clairement. Et encore, hein, je pense que la force que j'ai, je n'arrive même pas à sa cheville, quoi, tu vois. Et c'est sûr que c'était, alors lui, il était dans les sports de combat, bien sûr, parce qu'il a fait de la boxe, du judo, du karaté, mais pas au niveau. Mais par contre, dans sa tête, c'était un assassin, c'était un guerrier. Et je pense que j'ai hérité de ça de lui et je suis très heureux qu'il m'ait donné ce côté-là.
Voilà. Ouais.
Si j'avais été bosseur comme lui, aujourd'hui, je serais déjà champion olympique depuis quelques temps.
t'oses dire ça. Ok, donc ça devait être un sacré bosseur parce que sachant toi comment tu te donnes de la peine.
C'est rien. Je te promets que je suis un rigolo et un fanfaron à côté de mon père.
Ok, c'est ton père qui est kabyle, c'est ça?
Mon père, ouais, qui était d'origine kabyle, ouais.
Ok, d'accord. Bah, je te demande parce que j'ai mon meilleur ami qui est devenu mon associé sur plusieurs entreprises après, qui est d'origine kabyle aussi et lui, c'est pareil. Son père il me dit souvent que son père lui a transmis des valeurs de ouf et tout. Alors je me dis, c'est peut-être un biais du survivant ou un biais du vainqueur, mais c'est marrant. Enfin, ça me fait penser à mon pote, quoi.
Les kabyles sont très droit, tu vois. Ils sont droits, en fait, une parole, c'est une parole, tu vois. Et quand tu t'engages à une chose, une fois que tu as donné ta parole, tu t'engages jusqu'au bout et il n'y a pas de coup tordu, non. On se doit de respecter les paroles et les valeurs qu'on nous a données. Un homme ouais. de valeur, c'est très important. Une personne de valeur, c'est le plus important chez nous.
Ouais. Donc, ça se ressent, ouais. Ça se ressent, je trouve, dans ta personnalité que les valeurs, la famille, c'est des choses sur lesquelles tu déroges pas.
Voilà. Et, c'est quelque clair. Chose, quoi qu'il arrive, on s'y tient, quoi. On s'y tient. Ouais.
Et tu dirais que tu as eu une enfance facile ou tu vois, j'ai l'impression que t'es toujours tout sourire, t'es toujours détente, t'es toujours ultra positif et ça fait un bien de ouf parce que je trouve que tu véhicules beaucoup d'espoir autour de toi. Mais ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été aussi facile. Tu vois, toi, tu te relèves toujours avec une force énorme. Mais plus jeune. Elle était comment ton enfance? Tu nous as dit que t'étais un peu turbulent, mais.
Bah, une chose est sûre, c'est que on n'a pas été élevé avec une cuillère en or dans la bouche, mais par contre, j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien parce que le peu qu'avaient mes parents, bah, ils nous le donnaient à nous pour qu'on puisse manquer de rien. Donc, il y a des enfants qui en ont bien plus bavé que nous, en tout cas avec ma sœur et moi. En tout cas, mes parents se sont battus pour qu'on manque de rien. Donc, je ne vais pas me plaindre.
Ouais.
Voilà. Et je ne faisais pas un scandale à mes parents quand j'avais pas une paire de Nike ou une paire d'Adidas, quoi, tu vois. Non. Ouais. Ça, c'est sûr que... Voilà, je viens d'une famille modeste. Où eux ont connu la difficulté. Ils roulaient pas sur l'or, mais ils se sont arrachés, ils se sont battus, ils ont fait plusieurs boules en même temps. Voilà, ils se sont démerdés comme ils le pouvaient. Voilà, mon père, je le voyais pas souvent parce que bah il travaillait la nuit. Voilà, il se levait à je sais pas quelle heure pour travailler. Enfin, ma mère pareil. Elle gardait des enfants, elle avait plein elle faisait des petits boulots, quoi, tu vois. Mais on n'avait jamais manqué de rien, c'était tout pour nous et presque rien pour eux, quoi. En gros. Donc, non, mes parents, je leur dois tout. Je leur dois tout et aujourd'hui, je me dois d'être présent pour ma mère aujourd'hui parce que voilà, après ce qu'ils m'ont donné, je me bats pour elle aujourd'hui, quoi. Malheureusement, mon père nous a quittés, donc il me reste ma mère et je dois tout faire pour qu'elle manque de rien, que la roue elle tourne, tu vois.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est elle qui m'a aidé quand j'avais rien, et maintenant bah c'est à moi de l'aider quand elle est dans la difficulté.
Ouais.
Et ça, je lui ai donné ma parole d'homme que je la laisserai jamais tomber.
Ouais.
Ça c'est clair.
Ouais. Et c'est pour ça que tu t'engages autant. Enfin, je trouve que t'es un des Quand on regarde un peu, t'es un des sportifs qui s'engage le plus dans des causes associatives ou qui a l'air d'être assez présent et d'être concerné et tout. Et notamment, tu vois, là, avec cette campagne que tu fais avec les Restos du Cœur et les Étoiles du Sport.
Bien sûr. En fait, moi, je me retrouve un peu à travers les Étoiles du Sport parce que ils ont une mentalité, ils ont une mentalité où je me retrouve dedans. Ils ont tout créé d'eux-mêmes et franchement, ils ont une mentalité de dingue. Moi, je vais parler de Benoît Etienne et Sébastien Foucras. C'est deux fondateurs des Étoiles. C'est deux personnes en or. Mais quand je te dis en or, mais en or. Ouais. Quoi qu'il arrive, ils vont tout faire pour aider les sportifs. Au-delà du sport, il y a leur cœur, tu vois, qui parle. Et quand Benoît m'a appelé pour me parler des Restos du Cœur, il avait même pas fini sa phrase, je lui ai dit: Benoît, compte sur moi. Clairement. Mais ça m'étonne même pas que les Étoiles s'engagent auprès des Restos du Cœur. Ça m'étonne même pas.
Ouais.
C'est normal presque, parce qu'ils sont tellement comme ça, eux, le cœur sur la main, que c'était même pas une surprise quand ils m'ont dit, bah voilà, nous, on veut faire quelque chose avec les Restos du Cœur. Franchement, ça, c'était limite normal, tu vois. Alors qu'il n'y a rien de normal. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui réagisse comme eux, tu vois.
Ouais, mais
je trouve ça génial. Et du coup, j'ai dit à Benoît, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Mais encore plus, si tu me demandes de faire un truc pour le Resto du Cœur, bah voilà, je suis là. Voilà. Mais... Et aussi, mon chapeau à l'Iséum et les Étoiles du Sport.
Ouais, ouais, ils font un boulot de dingue et je trouve effectivement, comme tu le dis, c'est porté par des valeurs et porté par un sentiment d'entraide qui est vraiment, que je trouve vraiment authentique, quoi. Et ça se voit que, comme tu l'as dit, ils sont passionnés par les sportifs, quoi. Et ils font tout pour que, ouais, les sportifs puissent s'y retrouver. Et c'est une grande famille. Donc, écoute, c'est cool que tu puisses en dire quelques mots, en tout cas.
Ouais, mais bien sûr. Et puis, tu sais, j'ai la chance d'aller quand même régulièrement aux Étoiles du Sport. Et même en ayant de l'expérience, à chaque fois que j'étais aux Étoiles, alors je transmets, bien sûr, parce que j'adore transmettre, mais aussi j'apprends encore, tu vois. Et on apprend tous, peu importe qui t'es, quand tu vas là-bas, t'échanges avec tellement de monde, tu écoutes tellement de discours, qu'en fait, tu repars en ayant appris quelque chose, mais tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est énorme. T'apprends tout le temps.
C'est clair, bah, c'est une espèce, c'est pas une masterclass, mais ça, vous faites il y a plein de conférences, plein d'échanges et tout, et c'est vrai que il y a plein de bonnes choses à en tirer, quoi. Ça, c'est clair. Franchement, c'est unique au monde, hein. Tu sais que les étoiles du sport, ça n'existe nulle part ailleurs. Franchement, on se rend pas compte de la chance qu'on a.
Mais moi, si tu savais comment ils m'ont aidé, ne serait-ce que même après la blessure, en rebondir. Et alors, bien sûr, j'ai été aidé par mon coach, par les médecins. Mais attention, les étoiles ont toujours été derrière moi, ils ont toujours pris de mes nouvelles, ils m'ont toujours boosté. Eux aussi, ils ont fait partie de ma réussite, en tout cas à rebondir après cette blessure. Ouais. Attention, je ne suis pas réussi, enfin, j'ai pas réussi à faire tout ça tout seul. Et eux font partie de la boucle des personnes qui m'ont poussé, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je leur dois beaucoup, beaucoup. Ouais. Et je suis très d'avoir rencontré et même plus d'avoir des amis comme ça, quoi.
Ouais.
Voilà.
Y a quelqu'un des étoiles qui me disait que tu avais une histoire particulière avec les Restos du Cœur et que du coup ils avaient pensé à toi en premier pour cette campagne et que tu étais une des premières personnes qu'ils avaient appelé. Tu pourrais en parler?
Ouais, bien sûr. Quand tu m'as demandé si j'avais manqué de rien. Bah alors tu vois, ouais, quand j'étais petit, oui, j'allais au Resto du Cœur. Alors c'est un peu flou parce que je me souviens plus combien de temps ma mère et mon père y allaient. Enfin, si j'y allais plus avec ma mère, quoi, tu vois, parce que mon père, je le voyais pas beaucoup. Mais ouais, j'allais au Resto du Cœur à Champigny-sur-Marne. Mais toi, tu te souviens de comment c'était la Coupe du Monde 98. Moi, je me souviens très bien comment c'était pour rentrer dans le Resto du Cœur. T'avais une petite descente et une fois que t'arrivais sur la gauche pour rentrer dans la salle où était donnée la nourriture, ben moi, je me souviens qu'on faisait le tour et à chaque fois, on prenait notre petit panier, notre truc de repas. C'était franchement, moi, je trouvais ça génial. Alors, je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que c'était le Resto du Cœur. Pour moi, tout le monde allait au Resto du Cœur, tu vois.
Ouais.
Je savais pas que je connaissais rien, moi, différence de classe d'âge, tu vois, couleur de peau. Moi, j'en avais rien à foutre. Excuse-moi d'être vulgaire comme ça, mais j'en avais rien à faire de que les gens soient noirs, soient blancs, soient chinois, soient français. On était tous des enfants, tu vois, ouais. À l'école, on était tous des enfants parce que je reconnaissais, il y avait des têtes avec moi, que je croisais, tu vois, mais il y avait pas de race, on était tous des enfants, tu vois. Et quand on allait au Resto du Cœur, je me souviens, bah des fois, moi c'est un truc qui m'a marqué pour Noël. Je crois qu'il y avait même un Père Noël, tu vois. Alors je vais faire attention parce que je sais pas s'il y a des enfants qui vont nous écouter, mais le Père Noël était là-bas, tu vois.
Ouais.
et c'était franchement extraordinaire. On avait des petits cadeaux, des petits chocolats, le kiff, quoi, le kiff. Tu ressortais de là, franchement, j'avais des étoiles plein les yeux. Je kiffais aller au Resto du Cœur, tu vois.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais c'est trop beau ce que tu dis. Hein. Franchement, là, j'en ai des frissons parce que... Tu vois, sais que effectivement c'est des moments uniques où tout le monde, personne ne se juge, les gens essaient juste de s'apporter un peu de réconfort et tout. Et
t'es un enfant, donc tu connais pas, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois. T'as l'impression que pour toi, c'est normal d'aller au Resto du Cœur. Mmh. Et tu sais, c'est un sujet que j'avais pas reparlé avec ma mère depuis des années et des années, tu vois. Mmh. Je vais pas dire que c'est tabou, mais c'est sûr que tu vas pas te vanter d'aller au Resto du Cœur, quoi. C'est clair et net. T'as une certaine pudeur. Et moi, les gens autour de moi, par exemple, le club n'ont jamais su que quand j'étais gamin, j'allais au Resto du Cœur.
Ouais.
Même ma compagne, elle l'a appris il y a pas longtemps. Tu vois, c'est, on est très pudique face à cela, même si on ne doit pas avoir honte, ça c'est clair. Mais je vais pas crier sur tous les toits que j'ai été au Resto du Cœur quand j'étais gamin.
Ouais.
Mais je pouvais pas faire semblant. Quand on m'a demandé est-ce que tu veux faire une campagne pour le Resto du Cœur, je pouvais pas te dire bah ouais, ça m'intéresse, mais par contre, j'y suis jamais allé. Tu vois? Non.
Ouais.
Voilà. Mais en tout cas, c'est des moments qui resteront gravés à vie dans ma tête.
Ouais.
Mais aujourd'hui, merci. Si je peux rendre l'appareil, aider. Et voilà, j'incite tout le monde, d'aller sur le site des Restos du Cœur et il y a une tombola jusqu'au 14 février. N'hésitez pas à donner. Voilà. Ouais. Un petit geste qui vaut beaucoup.
Ouais, exactement. Bah, écoute, moi, c'est fait pour moi. Je l'ai fait, à la seconde près où Coralie, des Étoiles m'a appelé. Et effectivement, ça, c'est une cause, tu vois, qui vient du peuple, qui vient des gens, c'est des actions très concrètes et c'est une asso qui tourne bien, qui est faite, enfin, qui est bien organisée et on voit, il y a des actions et c'est du concret et franchement, bravo à toi et bravo à tous les athlètes là qui participent à cette campagne parce que je pense que c'est un moment qui est un peu dur pour tout le monde, tu vois. Il y a une situation en plus qui est un peu anxiogène avec tout ce qui se passe autour de nous et c'est le moment où il faut être généreux, quoi. C'est le moment où il faut être généreux. J'ai vu que les Français n'avaient jamais autant épargné que cette année. Ils ont mis tout l'argent de côté et c'est le moment, voilà, de faire un petit don et un petit geste. Je pense que c'est le moment, quoi. Et en tout cas, merci infiniment pour avoir été transparent et être ouvert. Effectivement, comme tu l'as dit, ça peut être un sujet tabou, un peu dur, et j'ai l'impression que ça fait partie des choses, des souvenirs un peu qui t'ont aussi forgé et qui te donnent aussi un peu qui sont ancrés dans ta personnalité maintenant. Et donc merci beaucoup d'être humble et d'avoir réussi à en parler parce que y a pas beaucoup de gens qui osent parler comme ça de ces instants-là étant plus jeune, quoi. Donc bravo.
C'est gentil. Merci à toi.
Je vais essayer de jongler avec un sujet que je voulais bien aborder avec toi. C'était un autre sujet sur lequel je t'admire beaucoup, c'est ta détermination. Tu vois, quand je préparais un peu l'interview, il y a des phrases qui reviennent très souvent. Tu vois, tu te dis très souvent, quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Quand on a un objectif, il y a pas de secret, faut bosser. Est-ce que tu travailles ta détermination? Est-ce que je veux dire, on peut s'entraîner à être plus déterminé comme tu l'es? Parce que pour moi, t'es un des athlètes les plus déterminés que je connais, en tout cas, des athlètes français. Est-ce que c'est un travail de tous les jours ou est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est inné?
Non, je travaille pas ma détermination. Par contre, dans ma tête, je sais ce que je veux. Et moi, je suis toujours dans le combat. Et des fois, c'est un peu fatigant, tu vois, parce que
Ouais.
T'es bien parti, et boum, il y a quelque chose qui se met sur ton chemin, et tu dois faire marche arrière. Mais, de toute façon, j'ai donné ma parole, j'irai tout, je donnerai tout pour aller récupérer cette médaille olympique à Tokyo et à Paris 2024. J'arrêterai ma carrière pour Paris. Et ce que je souhaite, et ce que je veux aller chercher, c'est, voilà, la médaille olympique dans mon pays. Voilà, la France, c'est un pays qui m'a tout donné, que j'aime énormément, et voilà, faire un titre de champion olympique dans son propre pays, je peux arrêter ma carrière tranquille. Donc,
je te le souhaite.
Merci. Et du coup, voilà, moi, c'est ce que je veux. Donc, peu importe ce qui se mettra sur mon chemin, bah, je ferai tout pour, voilà, pour passer à travers ça. Moi, je pars du principe où, quand t'as pas les clés d'une maison et que tu veux rentrer chez toi, bah alors t'essayes de rentrer par la porte. Si la porte elle est fermée, eh ben tu vas rentrer par la fenêtre. Si la fenêtre elle est fermée, eh ben je sais pas moi, tu rentres par la cheminée, mais t'essayes de trouver plusieurs moyens d'y arriver. Et si t'y arrives pas, eh ben tu vas au bélier, mais tu rentres. Tu vois.
La solution de force en dernier.
Voilà. T'essayes, c'est pas parce que la porte est fermée que tu peux pas rentrer dans la maison. Tu peux toujours trouver un petit truc, une porte ou une fenêtre, ou tu vois. Il y a toujours un moyen d'essayer de rentrer. C'est pareil pour la compétition. C'est pas parce que tu as tombé une fois, deux fois, trois fois qu'il faut abandonner. Non.
Non, ah, non. C'est clair. Il y a toujours une clé. Toutes les portes ont une clé. S'il y a une porte, il y a une clé.
Exactement. Et puis, il faut pas oublier que la réussite, il y a toujours généralement un échec avant. L'échec fait partie de la réussite. Tu vois?
Ouais, exactement. Si tu réussis toujours, c'est plus de la réussite.
Ah, mais moi, de toute façon, sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas longtemps, j'ai mis un petit post et je trouve que c'est plus que vrai. J'ai marqué tomber 7 fois, relever 8. Tu vois?
Ouais.
Donc, tombe 7 fois, et bah, tant pis, tu te relèveras 8 fois. Tu vois? Et c'est un proverbe japonais. Donc, tu vois, est-ce que c'est un signe? Voilà, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec l'arc de triomphe derrière. Paris 2024, c'est pas tomber 7 fois, relever 8 fois. Peu importe ce qui se passe, on se relève et on va au boulot.
Ok. Et t'as dit que c'était un proverbe japonais. C'est, t'aimes bien la culture japonaise ou c'est du hasard?
Ah non, c'est du hasard avec les jeux. Non, non, c'est vraiment le hasard.
Ok, trop bien. Et est-ce que tu as déjà essayé de compter le nombre de fois où dans la journée tu vas te dire je vais gagner à Tokyo ou je vais ramener une médaille à Tokyo dans une journée normale? Tu sais combien de fois tu y penses?
Non, je sais pas, mais en tout cas, tous les matins je me lève pour ça. Tous les matins je me lève pour gagner à Tokyo ou à Paris, mais je sais pourquoi je me lève. Et même quand je suis fatigué et je suis KO, hein, je sais pourquoi je me lève et je vais à l'entraînement.
Ouais.
Pour ça. Mais de toute façon, chez moi, j'ai accroché une pancarte où il y a marqué de l'or ou rien d'autre. Tu vois? L'or olympique ou rien d'autre.
C'est vrai, t'as ça dans ta chambre?
Dans mon salon, quand même.
Ok. Donc tout le monde voit, quoi.
Voilà. Avant, bon, tout le monde, non, je m'en fous de tout le monde. C'est moi pour que je le vois, moi. Ouais. C'est. Avant de partir à l'entraînement, j'ai ça sous les yeux et je sais pourquoi je me déplace.
Ouais. Et Dieu sait que tu t'entraînes beaucoup là en ce moment là. Tu m'as dit que tu t'entraînais 3 fois par jour là. C'est ça ressemble à quoi une semaine là en ce moment au mois de janvier, février, à 6 mois de la grosse compétition. C'est t'articules un peu comment ton année. Moi, je suis curieux de savoir vu que en gym, enfin, vous êtes connus, vous êtes les athlètes qui passaient quasiment le plus de temps dans la salle. Moi, je serais curieux de savoir effectivement comment est-ce que ton année elle est organisée, comment est-ce que tes mois sont organisés, et en ce moment, quelle est un peu la charge de travail que tu absorbes.
Bah, je vais te donner une semaine type, si tu veux.
Vas-y, avec plaisir.
Alors, le lundi, moi, je commence par un entraînement sur piste d'athlétisme le matin. Avec mon préparateur physique, donc toute la matinée je suis sur la piste d'athlétisme et l'après-midi je suis à la gym. Le mardi matin je suis à la boxe. L'après-midi je suis à la gym. Le mercredi matin, je suis à la boxe. Le jeudi matin, je suis au jiu-jitsu brésilien. Okay. Et l'après-midi, je suis à la gym. Le vendredi matin, alors, je commence par la boxe. Dès que j'ai terminé la boxe, je file au dojo, jiu-jitsu brésilien. Et l'après-midi, je suis à la salle de gym.
Wow.
Ouais, le vendredi, c'est très très lourd parce que il y a 3 entraînements dans la journée, quoi.
Ouais. Et le week-end, repos complet?
Le week-end, repos complet.
Ok. Et quand tu te dis gym, c'est quoi? C'est des séances d'une heure, deux heures? Tu fais tous les agrès? Tu fais du spécifique?
2 heures, oula. Ouais. J'arrive à 15h30 à la salle et je repars chez moi, il est 19h30.
Ah ouais. Ouais. Tu dois être lessivé. Tu dois être lessivé à la fin, là.
Ah ouais, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué.
Et en 6 heures, tu fais tous les agrès?
Non. Je fais QANO.
Ok. Ok, ok.
Je fais de la prépa physique. Mm-hmm. Et du coup, voilà, je fais prépa physique plus du spécifique aux anneaux.
Ok. Ok, ok. Ok. Donc, tu as les épaules en feu tous les jours, quoi.
Grave.
Bah d'ailleurs, ouais, je voulais te demander des petits exos là pour muscler un peu les épaules, parce que moi j'ai des épaules assez faibles. Pourtant, Dieu sait que je les bosse. Et quand je te vois aux anneaux ou torse nu, je me dis, je rêverais avoir les mêmes épaules que Samia. T'as des petits exercices que tu chéris plus que d'autres et qui te font des bonnes sensations.
Déjà, moi, à savoir, je travaille que sur poids de corps.
Ouais.
Tu vois, je travaille que à poids de corps, je travaille jamais avec des gros poids, enfin quoi que. Vraiment pour le spécifique anneau, peut-être que je mettrais du travail avec des poids. Mais sinon, tu sais, tout ce qui est développé couché, traction, je fais jamais, jamais, jamais.
Ok. Ok, ok.
Moi, bah, je pars du principe où voilà, tu sais, tu peux faire plein de renforcements avec des élastiques, tu sais, que t'accroches, ouais. Ou tu vas travailler tes fixateurs d'omoplates, tes rotateurs, ouais, d'épaule et tout. Donc ça, c'est, voilà, ça va te permettre déjà de, ça te permet de, que ton épaule, elle soit bien gainée, elle soit bien protégée. Et, après, bah, tu veux travailler tes épaules. Moi, je vais faire un petit travail avec des bras tendus, avec des élévations, travailler tes pecs, tes deltoïdes, tu vois, travailler en abduction. C'est des petits trucs que voilà, que moi je fais généralement pour mes épaules. Mais après, c'est sûr que si tu veux avoir des épaules à la Schwarzy, c'est pas forcément ce travail qu'il faut faire.
Ouais. Ah, mais déjà, juste des épaules solides, tu vois. Juste solides, qui craignent rien. Déjà, ça serait déjà le pied, quoi. Toi, ça t'a aidé, peut-être pour les auditeurs qui te connaissent pas aussi bien que moi, t'as passé un diplôme de kiné, il me semble. Alors, je sais pas si tu l'as validé encore ou si t'es encore en train de le passer, mais
non, j'ai un diplôme en 2017.
Ok, j'ai ok. Ouais, et ça t'aide beaucoup dans ta prépa physique et dans ta pratique du sport, parce que c'est j'ai l'impression que t'es vachement curieux et vachement intéressé justement par effectivement tout ce qui est anatomie. Tout ce qui est soins, tout ce qui est musculation et tout, c'est...
Je suis curieux ouais, de base. Mais après, oui, c'est sûr que ça m'a un petit peu aidé, surtout à écouter mon corps, tu vois. À écouter mon corps, à savoir un peu ce que mon corps a besoin. Donc, soit du repos, soit un peu de soins, tu vois. Et ça, c'est... Dans le haut niveau, c'est primordial de savoir écouter son corps. Parce que sinon, quand on veut en faire trop, généralement, le trop est l'ennemi du bien, tu sais.
Ouais, c'est vrai.
Des fois, faut savoir. Le repos fait partie de la performance. Mm. Et ça, faut pas l'oublier.
Ouais. Pas l'oublier. Toi, tu te reposes comment, toi?
Moi, je me repose le week-end. Je me repose le week-end. Généralement, je m'écroule et voilà. Soit je me regarde une petite série Netflix, ou alors tout simplement en faisant des soins. Généralement, quand je termine depuis peu, là. Quand je termine mes entraînements, je vais me faire un petit sauna à la salle. Tu vois, ça fait partie de la récupération active. Donc,
okay.
Un peu de... un peu de tout. C'est sûr, je vais pas aller faire la fiesta déjà, je peux pas exploser, mais voilà, encore plus avec les raisons sanitaires qu'il y a en ce moment, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, bah, au moins, on voit ton sérieux, et c'est maintenant que je trouve les athlètes prouvent leur sérieux à fond, quoi.
C'est pas drôle, hein, tout ce qui se passe en ce moment.
Ouais, c'est clair. Bah, on croise tous les doigts pour que les solutions qui sont mises en place aient des effets rapides et que tout le monde puisse revoir son activité normale, parce qu'on est tous impactés par ça, quoi. Donc il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et moi je voulais te demander, vu qu'on a parlé un petit peu de rituels et d'entraînement, moi, il y avait un des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. C'était un peu le sujet de la concentration et du rituel avant compète. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu fais partie pour moi des athlètes vraiment modèles en termes de mental et en termes de concentration. La gym, quelle que soit la grève, je pense, tu pourras confirmer, mais encore plus les anneaux, tu as besoin d'être à 1000% de concentration pendant une minute ou une minute trente. Et du coup, je voulais te demander, comment est-ce que tu te mets dans ta bulle avant une compète? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la dernière heure avant de monter sur la grève? Comment ça se passe? Comment tu te prépares? Est-ce que t'as des petits gris-gris, des petites routines qui font partie de ton rituel avant une compétition?
Bah, en fait, moi, généralement, une heure et demie avant la compète, je me mets dans ma bulle, et c'est vrai que je suis plus trop bavard, tu vois. et voilà, j'essaie de faire beaucoup de travail de visualisation, et ouais. Et je me dis, bon, bah, allez, maintenant c'est aujourd'hui que ça se passe.
Ouais.
Et j'ai pas le choix, quoi, d'aller vers la réussite, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas le choix aujourd'hui et pas demain. Donc franchement, là, je cherche vraiment à reproduire ce que j'ai fait à l'entraînement, sans faire plus, sans faire moins, vraiment reproduire ce que je sais faire. Et ouais. Je regarde ce que font les autres. Ouais. Je regarde vraiment pas ce que font les autres, et je me dis, bon, allez, je fais ce que j'ai à faire. Point barre.
Ok. Et tu parles à personne, tu mets de la musique, il y a des phrases que tu te répètes peut-être?
Je me mets de la musique dans les écouteurs, et ensuite je fonce, quoi. J'évite de me poser trop de questions, mais non, je fonce, clairement je fonce. Je me mets dans ma bulle, et sur le moment, il n'y a plus de copains. Alors tout est dans le respect, et tant que la compétition n'est pas passée, j'enlève pas mes œillères, tu vois.
Ouais.
Donc voilà.
Ok. Bah écoute, ouais, hyper intéressant. Et t'as parlé de visualisation un peu. T'en fais, un peu tous les jours. T'en fais, tu te fais accompagner d'un préparateur mental pour ça?
Non, je l'ai fait tout seul. Ma visualisation, quoi.
Ok, ça marche. Écoute, Samir, là, on est bientôt à la petite heure qui va tourner. Puis comme c'est dimanche et je sais que c'est ton jour de récup, je vais surtout pas abuser. Pour la petite fin, j'ai des petites questions j'appelle ça les questions des auditeurs ou les questions un peu Canal+. Tu peux répondre un peu du tac au tac. C'est des questions que tu as un peu simples. Si jamais t'as envie de développer, tu peux. Ça te dit de jouer le jeu?
Ouais, carrément.
La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi?
Une bonne journée, c'est quand elle se passe sans accroc. Sans accroc, tu vois. Je me lève avec le sourire, je me couche avec le sourire, et que tout s'est bien passé. Ça, c'est une bonne journée. Ouais,
t'as raison. C'est quoi ton meilleur souvenir sportif que t'as vécu?
Je dirais ma qualification au dernier championnat du monde.
Ouais.
Oh, aux derniers Jeux Olympiques, pardon, excuse-moi.
Ouais. Et tu fais là où tu fais troisième au championnat du monde, c'est ça?
Exactement, ouais. C'est ça.
Ok. Ah, elle était belle. Franchement, bah, j'ai revu les vidéos là juste avant qu'on s'appelle. Ouais. Bravo. Hein. Franchement,
Il y a eu un gros stress.
Mais ça sentait que ça t'était soulagé à la fin. Il y avait la pression sur les épaules. Hein.
J'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait que je fasse mon podium si je voulais aller au jeu. Tu vois?
Ouais. Bien sûr. Et t'as une idole sportive? Un ou une idole d'ailleurs? Un sportif que t'admires plus que les autres?
Zizou.
Tu l'as rencontré?
Jamais. Jamais. Pourtant, il a le même partenaire que moi. Il est chez Adidas, mais j'ai jamais rencontré. C'est dommage.
Ben, j'en retoucherai deux mots alors. Faites une intro entre Samir et Zinedine. Pardon?
Est-ce que tu as déjà rencontré Zidane?
Écoute, j'ai sur un événement, effectivement, mais alors, c'était il y a longtemps, franchement, c'était il y a au moins 10 ans. Pour un événement, je l'ai vu de loin, tu vois, mais j'ai pas pu lui parler, lui serrer la main. Mais je me suis promis que ça arriverait un jour. Je me suis promis que ça arriverait un jour. Donc je prends le temps. Puis, peut-être pourquoi pas sur une interview, on verra.
Je peux te mettre. Hein.
Ouais, c'est clair, j'en doute pas. Il y a une rencontre sportive qui a eu beaucoup d'impact pour ta carrière. Ou je sais pas, une personne qui t'a aidé plus que les autres peut-être et que t'as envie de remercier aujourd'hui. On a déjà parlé un peu des étoiles, mais parmi tes coachs ou dans ton univers.
Il y en a plus d'un. Hein. C'est clair qu'il y en a plus d'un. Mais je dirais voilà, mon coach est déjà celui qui me suit jusqu'à maintenant, qui a toujours été présent pour moi. Mon club d'Antibes aussi, parce que ils me suivent, ils me poussent, tu vois, même la ville, mes partenaires surtout. Et voilà, après, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont en dehors de la gym mais qui ont été présentes pour moi, comme les étoiles du sport, tu vois, Seb et Benoît, c'est des personnes qui ont toujours été bienveillantes envers moi. Et voilà, c'est tous ces acteurs-là qui ont fait que aujourd'hui, je suis l'homme que je suis avec les résultats.
Ouais. Donc, ok.
En tout cas, c'est pas moi tout seul, c'est vraiment en équipe.
Ok. Et s'il y avait, toi, si tu pouvais être une petite souris et faire un petit voyage dans le temps avant tes premiers championnats de France où tu termines 104e et t'es encore un petit junior et c'était premier championnat de France, et si tu pouvais être une petite souris ce jour-là et te glisser un conseil, tu te dirais quoi à ton toi-même de l'époque?
Continue, ne lâche rien. Voilà ce que je me dirais.
Ok.
Continue. Bah,
il n'y a pas besoin de plus.
Je veux pas faire. Non, voilà. Les erreurs que j'ai pu faire, faut pas que je les gomme parce qu'elles m'ont aidé, justement. Tu vois, les erreurs m'ont fait apprendre. Moi, je pars du principe, soit je gagne, soit j'apprends, mais je perds pas. Tu vois, les échecs. Ouais. Faut savoir analyser les échecs pour justement te dire j'ai perdu, pourquoi? Pour être meilleur le lendemain, tu vois.
Il y a encore des choses qui te font peur dans la vie?
Bien sûr, il y a plein de choses qui me font peur. Voilà, perdre encore un proche, il y a rien de pire qui me fait flipper. Là, tu vois, je vais être pas, j'ai peur parce que c'est de l'inconnu.
Bien sûr.
Et j'espère que tout va bien se passer. C'est ça, hein, le problème.
Bah écoute, je te souhaite déjà toutes mes félicitations. Mais t'as fait le plus facile, je te cache pas. c'est après que ça devient du sport, tu vas voir. C'est un deuxième sport.
Ah, ça sent le vécu, ça.
Ah bah tu sais, moi j'ai deux petits garçons, donc c'est pas de tout repos toujours.
Tu m'étonnes.
À la maison, mais j'ai appris beaucoup de choses pour moi et c'est que du kiff. Et du coup, avant de terminer, la question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il y avait un film ou un livre que t'as lu ou que t'as vu et qui t'ont marqué et que tu recommandes à tout le monde autour de toi?
Bah tu sais, en ce moment, un peu comme tout le monde, je regarde je regarde Netflix, tu sais. Et franchement, il y a Lupin qui est pas mal sur Netflix et j'ai vraiment aimé. Autre que La Casa de Papel, tu vois, c'est sûr que tout le monde a vu La Casa de Papel. Mais là, en ce moment, il y a Lupin. Je trouve ça pas mal du tout.
Ok, ok, ça marche. Bah, merci pour la reco.
Pas très original.
Bah, si, ça marche aussi. Et la toute dernière question, avant de clôturer un peu cette interview, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plus un passage de micro. Et c'est de savoir quel est le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu verrais bien sur le podcast extraterrien.
Le prochain ou la prochaine sportive? Ouais, alors un Souleymane Sissoko, tu vois, un boxeur.
Okay.
Qui est un très grand champion et qui a une très très belle mentalité, tu vois. Et il a tout pour être. Moi, je l'appelle un peu le Omar Sy du sport, tu vois. Il est talentueux, il est intelligent, j'adore Souleymane. C'est un très très bon sportif que j'ai eu la chance de côtoyer à l'INSEP. Donc ouais, ça pourrait être pas mal.
Merci infiniment pour ce moment. C'était vraiment cool. Et bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dégages. Tu donnes du bonheur à plein de gens, donc ne change rien. Et je suis sûr que la suite des choses va être magnifique. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite.
Eh ben c'est gentil. Et merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast.
Salut Samir.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.